Alphonse Daudet à la Salpêtrière. Souvenir d'un carabin. Le cabinet de Charcot à la Salpêtrière, un matin de consultation. Il y a 10 ou 12 ans, au mur des photographies de naïves peintures italiennes, espagnoles, représentant des saintes en prière, des extasiés, convulsionnaires, démoniaques, la grande névrose religieuse, comme on dit dans la maison. Le professeur, assis devant une petite table, cheveux longs et plats, front puissant, lèvres rases et hautaines, regard aigu dans la pâle bouffissure de la face, va-et-vient de l'interne en tablier blanc et bottes de velours de yeux fins envahis avec une grande barbe. Et assis autour de la salle, quelques invités, la plupart médecins russes, allemands, italiens, espagnols, suédois, et commence le défilé des malades. Une femme du Var arrive à la consultation. Elle amène sa petite fille, hideuse, courte et boulotte, plaquée aux joues de rouges cicatrices. Dans la toilette verte et jaune d'un dimanche méridional, la taille s'enfle et déborde. L'enfant est enceinte. Vase informe tombé au feu, marqué à la cuisson. On se demande comment elle a pu devenir mère. Oh, pendant un accès d'épilepsie, dit Charcot. Tandis que la femme du Var, geignarde et veule, nous raconte l'indisposition de demoiselle, comment ça la prend, comment ça s'en va. Alors le professeur se tourne vers l'interne. Y a-t-il du feu à côté? Déshabillez-la. Voyez si elle a des taches sur le flanc. L'accent de là-bas, cette laideur. Genre, je t'ai ému. Bien plus encore, la malade suivante. Une enfant de 15 ans. Très proprette, petite toque, jaquette en drap marron, figure ronde et naïve, le portrait du père, un petit fabricant de la rue Oberkampf, étant avec elle. Assise au milieu de la salle, timide, les yeux à terre, ils encouragent les regards furtifs. On interroge la malade. Quel navrement! Il faut tout dire, bien haut, devant tant de messieurs. Et où la tient le mal, la façon dont elle tombe et comment c'est arrivé? À la mort de sa grand-mère, monsieur le docteur, dit le père. Est-ce qu'elle l'a vue morte? Non, monsieur, elle ne l'a pas vue. La voix de Charcot s'adoucit pour l'enfant. Tu l'aimais donc bien, ta grand-mère? Elle fait signe, oui, d'un mouvement de sa petite toque, sans parler, le cou gonflé de sanglots. Le médecin allemand s'approche d'elle. Celui-là étudie les maladies du tympan, spéciales aux hystériques. Il a des lunettes d'or et, promenant un diapason sur le front de la fillette, ordonne avec autorité « Rébédez avec moi, dimanche !» Un silence. Le savant triomphe. Elle n'a pas entendu. Je croyais plutôt qu'elle n'avait pas compris. Longue dissertation où le docteur allemand, l'italien s'en mêle, le russe dit un mot, Les deux victimes attendent sur leur chaise, oubliées et gênées, qu'en interne, à qui j'ai fait part de mes doutes, dit tout bas à la petite Parisienne, « Répétez après moi dimanche !» Elle ouvre de grands yeux et répète sans effort « Dimanche !» Pendant que la discussion continue sur le trouble auditif de l'hystérie. Et tout à coup, le professeur Charcot, se tournant vers le père, « Voulez-vous nous laisser votre enfant ? Elle sera bien soignée. » Oh, le nom qu'elle dit, terrifiée, en regardant son papa, et le tendre sourire de celui-ci la rassure. « N'aie pas peur, ma chérie. » Il semble qu'il devine ce que serait cela dans une maison, qu'elle serait aux observations, aux expériences, comme les chiens, si bien soignés, chez sa manche, comme celle de Darrette, cette petite Darrette, et toutes les autres qu'on va faire travailler devant nous, après le défilé des malades et les consultations finies. Darrette, longue fille d'une trentaine d'années, la tête petite, les cheveux ondés, pâles, creuse des taches de grossesse, un sifflement chronique, comme s'il en venait de pleurer. Elle est chez elle, à la salpêtrière, en camisole, en foulard au cou. « Endormez-la !» commande le professeur, l'homme, l'interne, debout, derrière la longue et mince créature, lui appuie les mains un instant sur les yeux, un soupir et c'est fait. Elle dort, droite et rigide. Le triste corps prend toutes les positions qu'on lui donne. Le bras qui s'allonge demeure allongé. Chaque muscle effleuré fait remuer l'un après l'autre tous les doigts de la main qui, elle, reste ouverte, immobile. C'est le mannequin de l'atelier, plus docile encore et plus souple. « Et pas moyen de nous tromper, » affirme Charcot. « Il faudrait qu'elle nous connût l'anatomie aussi bien que nous. » Sinistre, l'automate humain, devant le cercle de nos chaises, obéit à tout commandement qui amène sur son visage l'expression correspondante au geste qu'on lui impose. Les doigts en bouquet sur la bouche, simulant un baiser, aussitôt les lèvres sourient, la face s'éclaire. On lui ferme le poing dans une crispation de menace et le front se presse, se plisse. La narine se gonfle d'une colère frémissante. Oh, nous pouvons mieux faire ceci, même cela. Et le professeur lui lève le poing pour frapper en donnant un geste de caresse à la main droite. Toute la figure alors grimace dans une double signification furieuse et tendre. Un masque enfantin qui rit en pleurant. Et toujours l'Allemand promène son diapason, son spéculum auriculaire, son dans l'oreille d'une longue aiguille. « Oh, il ne faut pas la fatiguer, » dit le maître. « Allez chercher Balmain. » Mais l'interne revient seul, très vexé. Balmain n'a pas voulu venir, furieuse de ce qu'on l'ait appelé d'arrête avant elle. Entre ces deux cataleptiques, premier sujet de la salpêtrière, subsiste une jalousie d'étoiles, de vedettes, et parfois des disputes, des engueulades, d'avoir été relevé moins technique, mettent tout le monde en folie. À l'aide de Balmain, on amène Fifine à un trottin de boutique, les grands manteaux, le teint rose, un petit nez en l'air, la bouche bougonne, des doigts de couturière, tatoués par l'aiguille, mêlant en rechignant. Elle est du parti des Balmain et se refuse à travailler. En vain, l'interne essaye de l'endormir. Elle pleure et résiste. « Ne la contrariez pas, » dit Charcot, qui retourna d'Arrête reposée, très fière de reprendre la séance en reniflant. Mystère du sommeil cataleptique, entretenant autour de la malade une atmosphère légère, illusionnée de rêves vécus. On lui montre un oiseau imaginaire vers les rideaux de la croisée. Ses yeux fermés le perçoivent dans son aspect, ses mouvements ailés. Son vague sourire murmure « Oh, qu'il est joli !» Et croyant le tenir, elle le caresse et lisse sa main qui s'arrondit. Mais l'interne, d'une voix terrible, « D'arrête ! Regarde à terre, là, devant toi, un rat, un serpent !» À travers ses lourdes paupières tombées, elle voit ce qu'on lui montre. Commence alors une mimique de terreur et d'horreur, comme jamais Rachel, jamais la raison, et Sarah n'ont figuré de sublime. Et classique, le vieux cliché humain de la peur, partout identique à lui-même, resserrant les bras, les jambes, l'être entier, dans un recul d'effarement, pétrifiant cette mince face pâle où elle n'est plus vivante que la bouche pour un long soupir d'épouvante. Ah, de grâce, réveillez-la! On se contente de déplacer sa vision en lui montrant des fleurs sur le tapis et lui demandant de nous faire un bouquet. Elle s'agenouille et, toujours dans cette atmosphère de cristal que briserait immédiatement l'ordre d'un interne ou du professeur, elle noue délicatement ses doigts d'un fil supposé qu'elle casse entre ses dents. Et pas que nous observons cette pantomime inconsciente, quelque chose râle tout à coup, aboie d'un ton rauque dans le vestibule à côté. « Oh, Fifine, qui a une attaque ?» Nous courons. La pauvre enfant, renversée sur les dalles froides, écume, se tord les bras en deux, les reins en arc, tendue, contracturée, presque en l'air. Vite des survivantes, emportez-la, couchez-la. Arrivent quatre fortes filles, très saines, très nettes dans leur grand tablier blanc. Une qui dit avec un accent ingénu de la campagne, je sais imprimer. « Monsieur le docteur, je sais comprimer. » Et on presse, on comprime, en emportant à travers les cours ce paquet de nerfs en fuilis, hurant, ruant, ruinant la tête renversée, une possédée à l'exorcisme, comme ce vieux tableau de sainteté qu'on regarde dans le cabinet de Charcot. Et que nous avons oublié, et d'arrêter que nous avions oublié, la grande fille, toujours endormie, continue imaginairement de cueillir des fleurs sur le tapis, à grouper, causer ses petits bouquets. Déjeuner avec les internes dans la salle de garde surchauffée, en mangeant le rata du chapelier, plat de résistance traditionnel de la table, en ouvrant le vin des hôpitaux que nous verse à la ronde une vieille servante épileptique, nous causons magnétisme, suggestion, folie. Et je m'amuse à raconter devant cette jeunesse fortement matérialiste un épisode étrange de ma vie. L'histoire des trois chapeaux verts achetés par moi à Munich pendant la guerre de 1860. Ces chapeaux verts de feutre dur, de couleur de vieille mousse des bois, avec un petit oiseau piqué dans la ganse, l'aile ouverte et les yeux d'émail, je les avais donnés en rentrant à Paris à trois de mes camarades, bons et braves garçons que j'aimais tendrement, Charles Bataille, Jean Dubois, André Gilles. Tous les trois sont morts fous, et j'ai vu, j'ai entendu, à des dates différentes, délirer les trois fous sous mes chapeaux tyroliens, avec le petit oiseau piqué dessus. Mon histoire est écoutée poliment, mais comme une invention de romancier parmi les sourires de la table. Le café pris, les pipes éteintes, le chef de clinique de Charcot me propose une promenade au quartier des filles, des folles, et dans la grande cour pique un beau temps d'hiver, clair et froid. Le soleil chauffe de pauvres débiles et démentes en waterproof, accroupis sur le pas de porte, isolées, silencieuses, sans aucune vie de relation. Chacune cloîtrée dans son idée fixe, invisible prison dans ses têtes malades, heurte les parois choquées à tout coup. Et à voir cela, aucun signe extérieur de malaise, un masque paisible, des mouvements rationnels, et par la croisée entr'ouverte d'une salle basse, je vois une belle fille, les bras nus, le jupe relevé en tablier, frottant le carreau avec vigueur. C'est une folle. La cour suivante que nous traversons, plantée d'arbres, est plus tumultueuse. Sur le bitume qui longe les cellules, sont assises deux filles en sarrau bleu, les cheveux répandus, jolies, toutes jeunes. L'une rit aux éclats, se renverse, embrasse à pleine joue l'idiote morne, son regard affaissé à côté d'elle. Une autre, très grande, très agitée, se promène à pas furieux, s'approche de nous, interpelle l'interne. « Mais qu'est-ce que fais-je ici, monsieur ? Vous le savez, peut-être, mais moi, je ne le sais pas. Et elle nous tourne le dos et continue sa course enragée. Bientôt, une folle foule curieuse et bavarde nous entoure et nous presse. Une jeune femme en robe courte, de pensionnaire, de linge éclatant de blancheur, nous raconte avec des gestes arrondis une histoire incompréhensible. Elle a un air de bonheur, de prospérité qui fait envie. La sœur de Louis XVI, c'est elle qui l'assure, une vieille à nez à menton crochu, nous dit des gaillardises à l'interne, tandis qu'une porte ouverte du rez-de-chaussée, une longue figure terreuse, rêvasse, rêveuse, creusée, crevassée, nous appelle d'un sourire aimable. Messieurs, je fais des peintures, voulez-vous voir mes œuvres? Mais attendez, que je mette d'abord mon chapeau tyrolien. Je ne peins jamais qu'en chapeau tyrolien. La pauvre créature, un instant disparue, nous revient, coiffée d'un petit chapeau vert avec une plume d'oiseau, tout à fait un de ces chapeaux de Munich. Les internes restent ébahis, comme moi, de l'étrange coïncidence, et la malheureuse, qui nous montre deux ou trois hideux barbouillages, semble toute fière de notre étonnement qu'elle prend pour de l'admiration. Et en partant, remarquez sur le mur de la cour quantité de ces petits chapeaux montagnards crayonnés au charbon par la folle. La porte de sortie est large ouverte. Le triste bétail délirant qui nous suit piaille, jabote, paraît s'animer de notre départ. Je me retourne une fois encore. Et sur le seuil de la cour, que rien ne garde, ne ferme qu'un grand rayon de soleil, une barre de lumière, les folles sont alignées, criant, gesticulant. Une d'elles, la vieille sœur du roi, un bras levé, l'autre arrondi sur la hanche d'un geste de vivandière, clame en voix basse: Vive l'empereur! Des cours. De petits arbres, des bandes waterproof qui volent au vent glacé, s'agitent à grands pas solitaires, lugubre vision du déséquilibre humain, parmi lesquels je note au passage deux silhouettes. Dans le grand ouvroir, très clair, très gai, que le docteur voisin appelle son Sénat, et où des folles en rang sur des fauteuils causent, tricotent, une ancienne fille publique se tient à part contre la vitre. Flétrie, desséchée, elle ne parle jamais, seulement psst, on appelle avec le sourire de profession. Plus que cette vivante, plus rien dans elle. Le souvenir de l'intonation et du geste infamant. Oh, cette figure pâle derrière la haute vitre claire. Oh, cette folle, cette morte faisant la fenêtre. Et une autre au moins cruelle. Vous voyez, j'attends, je vais partir, me dit une brave femme accostée au mur d'entrée, un sac de nuit d'une main et de l'autre une serviette épinglée sur un petit paquet de route. Bonne tête de parent de province, elle sourit à la ronde, fait ses adieux. Et cela toute la journée, depuis 10 ans. Pour combien de temps encore?